Bon, alors, 94, le cannabis au Canada. Alors, bon, bien entendu, c'est un peu un passage obligé aujourd'hui pour n'importe qui commente, comme je le fais, c'est-à-dire qui déblatère sur un peu tout et rien à sa façon. Et il y a Caroline Saint-Hilaire qui est une ancienne mairesse, une politicienne de carrière qui aujourd'hui travaille à la Joute comme collaboratrice, si je ne me trompe pas. Et qui a tweeté « j'en reviens pas, aujourd'hui, partout dans le monde, ça parle juste du cannabis, c'est ça notre projet de société, blablabla. » Et c'est à quoi j'ai répondu « les gens heureux sont sans histoire. » Ça peut être sans histoire avec un S ou pas de S, puis un grand H. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans l'idée même du Canada qui est particulièrement sans histoire, c'est-à-dire avec un grand H, c'est-à-dire que c'est un pays qui est neuf, mais avec une histoire qui ressemble aux autres, un conflit entre deux pays qui se retrouve ailleurs que dans chacun des belligérants, donc entre l'Angleterre et la France, mais qui se dispute ici. Ou sans histoire avec un S, c'est-à-dire la réalité du Canada, c'est un pays sans histoire, c'est un pays démocratique où il fait bon vivre et où on en vient finalement, c'est une réaction, je pense, qui est très enfantine, à trouver épouvantable des affaires qui, au quotidien, ne le sont pas. Que ce soit des réactions qu'on a face à l'actualité, que ce soit de rester comme Michel Brûlé ou Mathieu Bock-Côté, enraciné avec une détestation de tout ce qui est anglophone. Puis, loin de moi dire que c'est pas correct de penser ça. Ils ont peut-être des raisons que je ne vois pas, c'est correct. Mais je fais juste vous dire que, honnêtement, là, si vous avez un minimum de perspective, restez au Canada, que ce soit n'importe où, incluant au Québec, c'est loin d'être une souffrance. C'est beau de chercher là, des injustices partout, mais c'est exactement la raison pour laquelle, tout à coup, on est même juste capable de faire le commentaire de Mme Saint-Hilaire. C'est-à-dire de faire « Mon Dieu, il arrive quelque chose qui est ici quand même un changement important, quelque chose qui était et qui est encore dans l'écrasante majorité des pays illégal. Ici, on fait la mise de dire « On pense que c'est mieux si on le légalise. » basé sur la prémisse tout à fait banale que « anyway, la répression, ça marche pas ». Ça, c'est partout. Partout, tout le monde peut arriver à ce constat-là. Donc, est-ce qu'on la garde, la répression, ou on la change? Moi, j'ai pour mon dire, quand tu fais la même recette, tu obtiens le même gâteau. Ça fait que si tu fais juste dire « rajoutons encore plus de répression », alors qu'il y en a déjà beaucoup. Donc, moi, depuis le début, je suis plutôt d'accord avec cette idée-là, mais encore là, qui suis-je pour savoir ce qui va se passer? Bref, je fais juste réagir à ce commentaire-là, à l'effet que ben oui, ça a l'air qu'au Canada, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire et on ne devrait pas s'en plaindre. On ne devrait justement pas s'en plaindre. Ça n'enlève pas du tout aux idées indépendantistes du Québec d'être valable. Pas du tout. Moi, j'ai toujours été ambivalent sur cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que le Québec sera mieux d'être indépendant ou pas? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Les arguments se valent de chaque côté. Mais le point étant que, voilà... si aujourd'hui le monde entier parle du Canada puis qu'on dit c'est plate, ils parlent pas d'autre chose. Mais de quoi tu veux qu'on parle au Canada? Tu veux qu'on parle des moultes attentats terroristes? Il y en a très peu. Tu veux qu'on parle du système de santé? Il coûte cher, mais il fonctionne à règle générale. Je veux dire comme un de mes amis, le problème c'est à l'urgence. Parce qu'une fois qu'on est entré à l'hôpital, habituellement on a du très bon service, puis les gens, le staff est écœurant. Ça fait que je suis désolé, mais là, comme dans plein d'autres domaines, ça dépend où vous mettez votre loupe. Si vous êtes dans le registre du chiolage, parce que vous êtes fâché dans la vie, parce que c'est ça la mécanique du chiolage, les chioleux se parlent entre eux autres, ben oui, vous allez trouver de quoi chioler tout le temps. Puis si vous allez faire un tour dans 90 % des autres pays, genre, peut-être que j'exagère, mais pas tant, là, il y en a 200, je crois, 5 ou 15 qui sont répertoriés. Quand vous allez avoir fait le tour de certains pays d'Europe, des États-Unis, du Canada, de quelques pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale, qui se débrouillent du mieux. Sérieusement. Ça fait que, voilà, c'est comme chialer sur ce que vous voulez. Moi, j'embarque pas. Et puis, si tout à coup, les gens parlent qu'il y a du cannabis à côté au Canada puis qu'on n'en revient pas puis que c'est la seule nouvelle, ben oui, c'est la seule nouvelle. Regardons ça, c'est la seule nouvelle. C'est dans ton quotidien, si tu vraiment... T'aimes-tu mieux qu'il y ait toutes sortes d'autres nouvelles qui sont, par définition, souvent plus bouleversantes qu'autre chose? Bon, voilà. Alors... Maintenant, tombons dans le vif du sujet. C'est quoi la prédiction par rapport au cannabis comme tel? Je vais vous dire ce que je suis convaincu qui va arriver. C'est que ça va faire exactement, c'est là mon parallèle, vous allez le trouver plutôt bizarre, mais vous allez comprendre, puis je vais vous l'expliquer. Ça va faire exactement comme iTunes et les fichiers MP3. Quand Napster est arrivé dans les années 90, quand Napster, il y en a plein qui ne savent pas c'est quoi, là, parce qu'on s'en souvient plus, mais Napster, c'est l'échange de fichiers peer-to-peer, on appelait ça, donc d'un ordinateur à l'autre, et non pas à partir d'un serveur commercial qui appartient à une compagnie ou autre. Quand Napster est arrivé, il a fait péter le modèle des compagnies de disques qui avaient le monopole sur l'industrie de la musique. C'est-à-dire que si tu voulais être un artiste qui se faisait connaître, tu devais passer par un producteur d'albums. Bon, bref. Et ça, ça a fait péter ça. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, les gens se sont mis à pirater des chansons connues. Puis après ça, ça a permis à du monde de dire « Hey, moi, je fais mes propres chansons, puis je peux même les mettre sur des plateformes qui sont gratuites la plupart du temps, puis qui vont permettre à du monde. » Alors, le défi, ça devenait d'être trouvé et non pas d'être publié. Publié, tout le monde peut être publié aujourd'hui, mais dans le flot de tout ce qu'il y a de publié sur Internet, le défi, c'est « Hey, check, moi j'ai une chanson, moi j'ai un blog, moi je vends des T-shirts. » C'est d'être trouvé, le défi, c'est pas d'être publié. Tout le monde peut être publié. Fait que Napster faisait en sorte qu'on s'échangeait des fichiers. Ça a donné un crash hallucinant à l'industrie de la musique et tranquillement, on a vu des statistiques qui se sont mis à remonter avec, par exemple, le streaming, des trucs comme Spotify, où tu payes 10-15$ par mois, puis tu as accès à toutes les chansons ou à peu près. Presque tout le catalogue d'à peu près tout le monde de connu est là-dessus. Bon, là, il y a des discussions, en effet, comment c'est réparti. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Je fais juste vous dire qu'à un moment donné, l'économie était que souterraine. Ça avait brisé tout le système de la façon que ça marchait avant. Et puis, lorsqu'on a, mis ça organisé par des compagnies, organisées avec des moyens, ben, ça n'a pas arrêté le transfert de fichiers MP3, mais qui en achète maintenant? On voudrait dire qu'on ne les achète pas. Qui les download? Qui les télécharge? Il y a deux catégories de personnes qui téléchargent des chansons aujourd'hui. Il y a des très, très jeunes qui n'ont même pas de carte de crédit, qui n'ont pas une scène, puis des raides pauvres, pour qui 1,29 ou 99 cents dans iTunes ou 10$ par mois, ils n'ont pas l'argent. Ou ils sont raides gratteux, là, ça peut être une autre affaire. Mais alors, c'est que ça le marché. Donc, il existe encore, mais c'est pas long que iTunes et Spotify, pour prendre ces deux exemples-là, ont réussi à créer une réelle économie. Et pourquoi? Alors, c'est là qu'il faut voir le lien avec la Société québécoise du cannabis. Le lien, c'est le suivant. Il y a deux raisons pour lesquelles, moi, le premier, depuis des années, j'achète que des chansons sur iTunes, ou je me suis abonné des fois à des services là, comme Apple Music, etc. Mais je suis pas assez maniaque de musique pour que ça vaille la peine. Donc, moi, à l'occasion, j'entends une bonne tune qui passe, blablabla, fout, je l'achète, et dans mon téléphone, je suis très heureux. Un, l'expérience d'achat, c'est-à-dire que je paye sur un bouton, c'est terminé, c'est dans mon téléphone, la tune est là pour l'éternité. C'est facturé automatiquement. Donc, l'expérience d'achat est hallucinante. Et deux, la qualité du produit. C'est-à-dire que les MP3, des fois, le son est pas bon. Des fois, ça vient avec des virus, c'est pas clair. Sur un Mac, c'est moins le cas. À vrai dire, ça l'est pas. Mais avec un PC, Dieu sait si tout à coup, ça peut être un piège à clic, etc., puis blablabla. Mais c'est les deux mêmes arguments qui me font dire qu'il va arriver exactement la même chose avec le marché canadien, en général. Il va avoir certainement une particularité ici, parce qu'on n'est jamais pareil comme ailleurs. Je sais pas laquelle, mais il va en avoir une. Mais la réalité, c'est ça. C'est que, tout comme iTunes, les gens vont dire, moi, un, je veux savoir ce que j'achète. Je veux pas que ça soit coupé par le dealer du dealer du dealer de on sait pas combien que ça arrive de où. Donc, moi, quand je m'en vais dans une boutique de la Société québécoise du cannabis, ça me permet d'avoir une garantie de qualité parce que c'est l'État qui gère. Ça, c'est A, c'est pas rien. Puis B, l'expérience d'achat. Au lieu de me sentir comme un tout croche qui fait venir le petit pusher là, qui salue puis qui regarde à droite, à gauche, qui te donne ton enveloppe, je m'en vais au coin de la rue. Je peux même faire livrer. Puis c'est clean, puis c'est légal, puis tout le monde est content. Donc, je crois vraiment que c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que le marché noir va continuer. Il va y avoir des ajustements. Ça reste quand même rigolo que le marché noir va être responsable en partie du prix du marché régulier. T'sais, on est habitué avec la cigarette que quand les taxes sont trop hautes, le marché noir devient fort. Mais là, le prix en bas de 6$ le gramme pour débuter, pour un gramme de pot, c'est à ce qu'on me dit, parce que moi, je fume zéro, mais on me dit que c'est déjà moins cher que le 7 à 10$ le gramme ou quelque chose autour de ça qui était sur le marché noir. Donc, en tout cas, un va influencer l'autre. Assez rigolo que le marché noir va influencer le marché régulier, mais peu importe. Puis c'est tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir des vrais revenus. Donc, la politique à date a fait du sens, du moins avec ma prédiction. C'est-à-dire qu'il va y avoir des vrais montants qui vont être mis dans le coffre de l'État. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? I don't know. Puis ça va gérer la qualité du produit auprès d'une large partie de la clientèle, mais ça ne tuera pas complètement le marché noir, mais qui va aller, comme je vous dis, dans un parallèle entre les plateformes maintenant qui sont gérées par des compagnies qui fonctionnent comme iTunes, par exemple. Tu vas avoir ça au niveau du pot, c'est-à-dire que c'est au lieu d'être une compagnie privée, c'est une compagnie étatique, mais qui va gérer le pot, et le consommateur va s'y retrouver pour les raisons que je viens de vous donner, c'est-à-dire qualité du produit, qualité de l'expérience d'achat. Et c'est comme ça que va se structurer le marché, d'après moi. Donc, basé pas juste sur des raisons santé ou l'argent, basé sur la façon qu'on consomme, la façon qu'on achète. C'est des critères valables, ça, des fois, on les néglige. Ça fait que c'est comme ça, d'après moi, que ça va virer. Ça fait qu'on saura s'en reparler. Vous pouvez commenter à cet effet-là, d'ailleurs. Je suis curieux d'avoir si vous trouvez que mon hypothèse fait du sens. Puis pour le reste, ben, les grands combats, c'est ci, c'est ça. Honnêtement, ça m'intéresse plus ou moins. Là. Je garde cette politique-là. Bon, qu'est-ce qui était si urgent à faire ça? Je le vois pas. C'est arrivé. À vrai dire, je trouve même que ça a été bien géré, c'est-à-dire que ça ne l'a pas été complètement. Moi, ça fait mon affaire qu'à un moment donné, ils ont dit « on vous donne une date, puis à cette date-là, ça part ». Parce que ça me fait penser aux gens qui sont jamais assez prêts. « Ah non, là, je prends des cours. Quand je vais avoir fini mes cours, je vais lancer mon projet. Puis là, je prends un autre cours, puis ouais, ben oui. » C'est toutes des belles façons de s'empêcher de faire des affaires. Ça fait que moi, je trouve qu'au contraire, ils ont dit « sais-tu quoi? » Ils ont dit ça, ça fait très longtemps, c'est le 17 octobre. Ils vivaient avec, là, c'est de même. C'est comme l'arrêt Jordan, quand ils ont dit « c'est 6 mois maximum maintenant pour entendre quelqu'un ». Puis sinon, il est acquitté, c'est tout. Débinez-vous. Puis depuis ce temps-là, le système de justice s'est débiné. Des fois, ça prend des deadlines. Des projets qui n'ont pas d'échéancier. Je suis désolé. Tout le temps, quelqu'un va en profiter pour dire « ah, finalement, on va faire ça plus tard ». C'est que ça, ce bout-là, moi, j'ai aucun problème avec le fait que même si, à la rigueur, tout n'est pas parfait, ben il y a des problèmes qui se règlent en cours de route, qui se règlent pas mieux quand on les super planifie. Alors, c'est ça que j'avais à dire ce matin, mes chers amis, à propos de la légalisation du cannabis.